Chapitre 8. Le lendemain, une crise d'angine de poitrine clouait au lit M. d'Agincourt. Il en résulta une sorte de trêve entre Henri et sa mère, qui, forcés de veiller à tour de rôle le chevet du malade, n'eurent plus d'autre préoccupation que le soin de sa santé. Mais, aussitôt que l'ancien inspecteur des forêts fut sur pied, Mme d'Agincourt n'eut rien de plus pressé que de recommencer ses jérémiades. Hélas, dès les premiers mots qu'elle adressa à son beau-frère au sujet de ses angoisses, elle obtint une réponse qui n'était pas faite pour la tranquilliser. « Ma chère Marie, déclara simplement le convalescent, nous ne briserons jamais la chaîne qu'Henri s'est forgée. Il n'y a donc à s'incliner devant le fait accompli. »«
S'incliner devant le fait accompli ? » répéta la mère. « Non, c'est impossible. Alors vous lui avez parlé ? » Vous lui avez nettement demandé de rompre avec cette fille, et il a refusé ?
Il a refusé, et j'avoue que j'approuve entièrement sa conduite.
Vous approuvez sa conduite ? Une liaison que réprouvent la morale et la religion ? Une abomination ? Une horreur ? Voyons, Albert, vous n'y pensez pas ? C'est une gageure.
Pas du tout.
Mon fils s'amourachait d'une pauvresse et préférer cette fille du peuple à tous les partis brillants que je lui ai offerts. Vous voudriez que j'accepte une chose pareille, moi, moi ? Henri aurait pu épouser mademoiselle de Nessalas.
Oh, celle-là, je l'ai jugée, interrompit en souriant l'ancien forestier. Je félicite mon neveu de l'avoir jugée, comme moi, pour ce qu'elle vaut. Je préfère pour lui Angèle Mazarin.
Madame d'Agincourt se pinça les lèvres de colère et de dégoût.
Il aurait pu épouser alors mademoiselle Chabran, ajouta-t-elle au bout d'une minute.
Sur ce point, nous sommes d'accord, et il est regrettable que vous ne vous soyez pas employé, en temps opportun, à faire triompher l'inclination d'Henri pour Lucienne.
Mais ça n'a pas dépendu de moi. Nos premières avances furent mal accueillies.
Sans doute, il y avait de grosses difficultés, mais il n'était pas impossible de les vaincre. Allons, le passé est le passé, n'en parlons plus. Revenons au présent. Si j'approuve aujourd'hui la conduite de mon neveu, c'est que l'attachement d'Henri pour la jeune fille qu'il a séduite montre une délicatesse de sentiment, une noblesse, une grandeur de dévouement qui mérite l'admiration.
J'ai peur de comprendre, murmura la mère après une minute de réflexion.
Pourquoi peur ? Votre fils et sa maîtresse sont maintenant unis par la promesse d'un enfant. Henri accepte généreusement toutes les responsabilités et s'il n'épouse pas la mère de son enfant, du moins il ne l'abandonnera pas. Qu'est-ce qu'il y a d'effrayant là-dedans ?
Madame d'Agincourt avait bondi, puis s'était écroulée sur un fauteuil, assommée, anéantie par cette révélation.
Mon fils, avoir un enfant en dehors du mariage, en dehors des seules conditions que la société admet. Une amourette passe encore, on en jase, on en rit et on oublie. Mais un enfant, ah, le malheureux, cette honte m'était-elle donc réservée ?
L'oncle souriait moqueur, comme ce cri de colère, de désespoir, donnait bien la mesure exacte de l'idéal suprême de ce pharisianisme bourgeois.
« Eh bien, vous n'avez qu'à les marier, » fit-il ironiquement.
« Ça, jamais !»«
Alors, ne vous plaignez pas !»
Ce sarcasme exaspéra la vieille dame.
« C'est bon, je m'arrangerai, j'ai un moyen, » grommela-t-elle têtue.
« Du calme surtout, » pria M. d'Agincourt. Henri est très monté de son côté. Évitez une discussion qui pourrait amener une rupture définitive entre vous.
Soyez tranquille, je ne provoquerai pas d'explications inutiles. J'agirai sans même prévenir mon fils.
Que gagneriez-vous, d'ailleurs, à heurter de front les sentiments d'Henri ? Vous le pousseriez à bout, voilà tout. Tandis qu'avec de la douceur, de la patience, tout peut s'arranger. Ayez seulement le courage de garder le silence pendant quelque temps et la situation se dénouera peut-être d'elle-même. La mort, par exemple. Pourquoi pas ? Une grossesse est toujours dangereuse.
« Oh oui, la mort !»
répéta Madame d'Agincourt, qui sembla soudain hypnotisée
et consolé par cette pensée.
M. Albert d'Agincourt avait déclaré qu'il repartirait pour Lunéville aussitôt qu'il serait tout à fait valide. Rien ne put le faire revenir sur cette décision. Avant de quitter Bordeaux, il tint à faire une visite d'adieu à son ami Chabran. L'entrevue fut plus que froide.
« Allons, grogna l'ancien forestier en sortant de là. En voilà encore un qui trouve, comme ma belle-sœur, que je n'ai pas eu assez de ménagement pour lui. Décidément, à être franc, on ne gagne que des inimitiés. »
Le lendemain, le vieillard reprenait le chemin de la Lorraine. Henri, seul, l'accompagna à la gare. Le dernier entretien de l'oncle et du neveu fut empreint d'une tristesse profonde. Le jeune homme, surtout, était affolé à l'idée que l'ami, le défenseur qu'il avait trouvé en son oncle, allait lui manquer et qu'il serait seul à lutter contre sa mère. Et l'ancien forestier, qui se savait gravement malade, ne s'éloignait pas sans un douloureux serrement de cœur. Ce fut lui, cependant, qui, jusqu'au dernier moment, essaya de dissiper les sombres pressentiments de son neveu en l'assurant qu'il n'y a pas de crime, qu'une mère ne finisse par pardonner à son fils et que, d'ailleurs, tout s'arrange avec le temps, de la patience et de la bonne volonté. Malgré cela, lorsque le train fut parti, Henri éprouva une sensation si aiguë de découragement, d'abandon, que les larmes lui vinrent aux yeux. Il eut vite fait, d'ailleurs, de se ressaisir, et les bras ballants, la tête lourde, il s'achemina lentement vers la ville. Comme il traversait le pont, ses regards furent attirés par les allures bizarres d'un individu qui, appuyé sur le parapet, fixait obstinément le fleuve en se livrant à une mimique invraisemblable. C'était un homme de haute taille, à la tournure assez élégante et dont les cheveux tout blancs attestaient la soixantaine depuis longtemps sonnée. Henri s'arrêta. Il venait de reconnaître un ami.
« Que diable faites-vous donc là, monsieur Valérac ? S'écria-t-il. « Vous avez des gestes de pêcheur à la ligne en détresse. »
Mais c'est évident, pérorait Valérac en ouvrant largement les bras, comme s'il se fût adressé à un auditoire de 10 000 personnes. « Vous voyez bien que ces divers mouvements de flux et de reflux, existant aussi bien dans les fleuves que sur la mer, sont des forces inutilisées. Or, ces forces sont innombrables et incommensurables. » Quelque minime qu'elles soient prises en détail, elles constituent en masse la plus formidable puissance que la création ait jamais mise à notre disposition. C'est le moteur universel qui suffirait à faire tourner tous les moulins, à mettre en action toutes les machines du monde, si cette force pouvait être transformée et transportée. L'empire du monde appartiendra à celui qui... Tiens, monsieur d'Agincourt, quelle heureuse rencontre! « Vous m'avez entendu, vous avez dû m'entendre. J'ai la manie, quand je me laisse emporter par mon enthousiasme, d'exprimer tout haut mes impressions. Vous savez, entre nous, ça y est cette fois, je le tiens le moyen de refaire ma fortune. Enfoncez le cousin Chabran. La vente des boîtes de sardines n'est que jeu d'enfant à côté de ma gigantesque entreprise. » Vraiment, mon cher monsieur d'Agincourt, je suis très heureux de vous voir. J'avais justement à vous entretenir. » Il parlait avec tant de volubilité qu'il était impossible de placer un mot. Henri, d'ailleurs, l'écoutait à peine. Il s'acheminait maintenant, côte à côte, vers la place de Bourgogne. « Et je suis sûr, reprit Valérac, que vous ne devinerez pas ce que j'ai à vous dire. »
« Ma foi, j'avoue... »«
Ça vous flatte, mon cher monsieur, ça vous flatte !» répéta le maniaque en passant la main dans sa barbe soyeuse avec un geste de coquetterie. Depuis quelques jours, il s'est passé des choses graves à la maison. Mais, au fait, vous venez de conduire votre oncle au train? Il rentre chez lui?
Oui, soupira le jeune homme, et ce n'est pas sans une profonde tristesse que je le vois s'éloigner.
Naturellement, ce sentiment vous honore. Vous savez, il vous aime bien, votre oncle. Je ne l'ai entendu qu'une fois parler de vous. Ça m'a suffi. Je suis fixé.
Voyons, que s'est-il passé de si grave, monsieur Valérac ? Interrogea Henri après une minute d'attente.
C'est plus délicat que je ne croyais, dit le vieillard en hésitant, pris soudain d'un scrupule.
Il s'agit... Vous ne m'en voudrez pas de revenir sur un sujet qui vous est peut-être pénible ?
Non, non, parlez franchement.
Il s'agit de vos projets d'autrefois, de vos projets de mariage avec Lucienne.
Ah, encore ? Murmura le jeune homme d'un ton ennuyé. J'espérais que c'était fini.
C'est votre oncle, mon cher monsieur, qui a remis le premier cette question sur le tapis.
Je sais, mon oncle m'a tourmenté un jour, pendant 2 heures, avec cette malheureuse histoire, prétendant que la résistance de monsieur et de madame Chabran serait facile à vaincre, que je n'avais qu'à me laisser faire et que je deviendrais l'heureux époux de mademoiselle Lucienne.
Pourquoi pas ?
Attendez, moi j'ai opposé à ces tardives avances un argument décisif, irréfutable. C'est trop tard, j'ai d'autres devoirs à remplir. Mon oncle a compris mes raisons, qu'il approuve d'ailleurs, et n'a plus insisté.
« Ah !» dit le vieux maniaque.
Et après un silence, il ajouta
« Eh bien, c'est Amédée qui ne se serait pas donné tant de mal s'il avait su. Quand je dis Amédée, je me trompe. C'est encore sa femme qui a commandé la manœuvre et lui qui a obéi comme toujours. »
« Je ne saisis pas. À propos de quoi ?»«
Voici. » Dès sa première entrevue avec Chabran, votre oncle, M. d'Agincourt, manifesta le désir de renouer les négociations interrompues au sujet de votre mariage. Après avoir promis de vous doter, il vanta les futurs avantages de votre carrière, le brillant avenir qui vous était réservé. Bref, il mit une grande énergie à faire triompher son idée.
Après.
Mon cousin, bonassement, eut l'imprudence de rapporter cet entretien à sa tyrannique moitié. Aussitôt, celle-ci entra dans une violente colère. Comment un étranger se permettait de tramer, dans sa propre maison, des complots contre les décisions de son autorité souveraine ?
Bien. Elle allait y mettre bon ordre.
Alors, pour couper court à toute velléité de rapprochement entre sa fille et vous, elle a imaginé de précipiter le mariage de Lucienne avec Gaétan de Nestelas. Toujours docile et ridicule, Chabran a dû se charger d'aller positivement offrir sa fille au châtelain de Sabarège. Et, de son côté, Madame Chabran mettait Lucienne en demeure d'avoir à se prononcer immédiatement, de façon à ce qu'on pût annoncer officiellement ses fiançailles.
« Ah, mon Dieu !» soupira le garde général. « Que de mesquinerie, d'imbéciles machinations !»«
Laissez-moi finir, le reste est plus important pour vous. »«
Vous ne devinez pas ?»«
Lucienne a refusé, parbleu. »« Non seulement refusé de s'engager pour le moment avec M. de Nestalas, mais encore déclaré nettement qu'elle ne serait jamais la femme de Gaétan. »« Cela ne prouve-t-il pas qu'elle a d'autres vues, qu'elle conserve notre espoir ?»
Le jeune homme poussa un soupir. Son visage très pâle reflétait une véritable douleur. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent silencieux tous les deux. Enfin, comme ils arrivaient au cours de l'intendance, Henri se décida.
« Vous rentrez sans doute, monsieur Valérac, dit-il. Je vous laisse. Au revoir. »
Le vieillard s'arrêta et regarda le jeune homme avec compassion.
« Vous me faites vraiment de la peine, mon pauvre monsieur, murmura-t-il en lui prenant les mains. « Je ne voudrais pas vous quitter dans cet état. »«
Oh !» balbutia le garde général, « je sais me résigner. »«
Non, non, la résignation n'est qu'un pis-aller, la ressource des impuissants, des faibles. Dans les conditions où vous êtes, on ne parle pas de résignation, on agit, on lutte, on se défend. Je voudrais vous voir réagir, pouvoir vous aider. Je suis de vos amis, monsieur d'Agincourt, croyez-le bien. » Vous m'avez été sympathique dès le premier jour, et quoique je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire, de vous le prouver, oui, je suis de vos amis fidèles, dévoués.
Merci, monsieur Valérac, je vous crois.
Alors, promettez-moi.
Le jeune homme l'interrompit.
Est-ce tout ce que vous aviez à me communiquer ? Interrogea-t-il gravement.
Eh, mon Dieu, oui, car à quoi bon vous parler du reste pour vous attrister ?
« Si, si, je veux tout savoir. »
Valérac hésita.
« D'ailleurs, reprit-il au bout d'un instant, je ne vous apprendrai rien probablement. Il est superflu de vous rappeler que M. Gaétan de Nestalas et sa sœur... »« sa sœur aussi. Au fait, rien ne m'étonnera d'elle. »
Exaspéré par l'échec cruel que leur a infligé Lucienne, se venge en répandant sur votre compte des bruits malveillants, en grossissant d'ineptes racontars.
Que m'importe, je me moque de leur cancan.
Évidemment, les propos des méchantes langues ne vous atteignent pas. Malheureusement, il n'en va pas de même avec le public. Plus les calomnies sont grossières, plus elles s'accréditent facilement. Et c'est bien pis encore lorsqu'il y a une parcelle de vérité qui fait de ces calomnies de simples médisances.
Oh, je vous en prie.
Pardon, mon ami, je voulais seulement vous mettre en garde contre certaines surprises, contre les résultats possibles des insinuations perfides qui circulent sur votre conduite.
L'opinion publique n'est pas seule visée. On cherche surtout à prévenir contre vous vos supérieurs, l'inspecteur, le conservateur. J'en sais quelque chose, étant l'ami de ce dernier.
Qu'ai-je à redouter? Je fais mon service, on ne peut rien contre moi.
Sans doute, mais on sèmera sur vos pas tant de difficultés que l'on vous forcera à briser vous-même votre carrière.
Henri fit un geste d'immense lassitude.
Ah, tant pis, s'écria-t-il. Mais si l'on espère par des menaces m'imposer de lâches compromis, on se trompe.
Le vieillard avait repris les mains du jeune homme et les pressait affectueusement.
Allons, allons, du courage. Il y a encore des gens qui s'intéressent à vous, qui sont prêts à vous défendre. L'adversité se lassera, vous resterez vainqueur.
Le regard d'Henri se posa plein de reconnaissance attendrie sur son interlocuteur. Puis, coupant court,
« Au revoir, monsieur Valérac, au revoir. » répéta-t-il en s'éloignant avec un hochement de tête qui semblait dire «
Je fais mon devoir, advienne que pourra. »